Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, un grand merci à nos abonnés VIP qui nous soutiennent tous les mois sur lecoinducrime.com. Il s'agit de Valérie, Marc-Antoine Vaillancourt, Marianne Lafleur, Arnaud Imbault, Pascal Dague, Joël LVT et une nouvelle venue Delphine Amblat. Nous vous remercions infiniment. Votre soutien permet à des milliers de personnes d'écouter nos épisodes. N'hésitez pas à nous rejoindre sur lecoinducrime.com pour devenir un VIP. On commence. Le 12 avril 2003, un riche couple de promoteurs immobiliers, Graziella et Xavier Flactif, et leurs trois jeunes enfants, disparaissent, sans laisser de traces, dans la région du Grand Bornand, en Haute-Savoie. Au fil de l'enquête qui va suivre, on découvre que la famille n'était pas vraiment aimée dans la vallée. On la juge trop fastueuse, arriviste, malhonnête, et friande de signes extérieurs de richesse. Pour les enquêteurs, la seule thèse qui tient est que les Flactif ont fui pour échapper à leurs dettes et au fisc. Mais en vérité, la famille faisait l'objet d'un horrible complot, nourri par la jalousie maladive et le ressentiment infondé. Je vous propose de découvrir ou redécouvrir avec moi cette affaire qui a défrayé la chronique et marqué la mémoire collective française. Nous sommes au Grand Bornand, une commune située en Haute-Savoie. Région alpine touristique, célèbre pour ses stations de ski, elle est très prisée par les touristes étrangers fortunés qui viennent chaque année y passer Noël ou leurs vacances d'été. Pour les habitants de la région, ce flot d'arrivants en quête de dépaysement est une véritable aubaine et une source de revenus, certes saisonnière, mais largement importante. Les chalets, les appartements et les bungalows sont réservés plusieurs mois à l'avance, et il est rare de trouver une place de libre. Seulement, quand la saison touristique se termine, le Grand Bornand replonge dans le silence, entouré par ses majestueux sommets enneigés. Il faut dire que c'est un lieu où les gens sont renfermés sur eux-mêmes, avec cette typique mentalité montagnarde, taiseuse, un peu étriquée, profondément attachée aux racines, et où l'étranger, dans le sens large du terme, est perçu avec méfiance. Il n'est pas vraiment le bienvenu, à part quand il s'agit de délier sa bourse lors des vacances. Dans ces hautes vallées alpines, c'est un peu comme en Corse. On ne s'intègre jamais quand on vient de l'extérieur, raconte un journaliste de la contrée. Le samedi 12 avril 2003, Mario Leblanc, 14 ans, quitte le Pas-de-Calais, où il vit avec son père, pour venir passer ses vacances chez sa mère, Graziella Ortolano, qui habite dans le Grand Bornand. Mario est issu du premier mariage de Graziella, et malgré la séparation avec son premier mari, la mère et le fils ont conservé une relation très fusionnelle, celle que toute maman italienne, digne de ce nom, entretient toute sa vie avec ses enfants. D'ailleurs, à chaque période de vacances, le jeune Mario saute dans le premier avion pour la rejoindre en Haute-Savoie. Après sa séparation, Graziella Ortolano a refait sa vie avec un riche promoteur immobilier, un certain Xavier Flactif, lui-même originaire du Pas-de-Calais. Ensemble, ils ont eu trois enfants, Sarah, Laetitia et Grégory. Mario Leblanc adore ses demi-frères et sœurs, et son arrivée est toujours une fête dans le chalet familial. Le chalet, situé dans le village de Prat-sur-Arly, est une imposante bâtisse qui domine la vallée. C'est l'un des plus beaux et des plus luxueux de toute la région. Et pour cause, Xavier et Graziella Flactif sont de riches promoteurs immobiliers qui possèdent près de la moitié des propriétés du Grand Bornand. Le couple et ses enfants mènent grand train dans cette commune de montagne où il n'est pas toujours bon d'étaler ce qu'on possède ni de se vanter de sa réussite financière. En d'autres termes, Ils sont jalousés, voire haïs par certains. Pour le moment, nous allons rester avec Mario, en route vers le chalet. Il atterrit le matin du 12 avril 2003 à l'aéroport de Lyon et trouve là le taxi que sa mère a commandé la veille pour venir le chercher afin de le conduire jusqu'au village de montagne. L'adolescent arrive au chalet vers 10h du matin. Il s'aperçoit rapidement que ce dernier est vide. Ce qui l'étonne, puisqu'il y a toujours quelqu'un pour l'attendre à chaque fois qu'il arrive. Mario remarque aussi que la Toyota 4x4 de son beau-père Xavier n'est pas garée devant le chalet, comme d'habitude. Sur le moment, l'adolescent ne s'inquiète pas outre mesure. Il pense que sa mère a eu un contretemps et qu'elle a dû s'absenter pour aller chercher les enfants quelque part ou faire une course de dernière minute à l'occasion de son arrivée. Alors, en attendant son retour, il fait un petit tour dans le village pour rencontrer quelques amis qu'il s'est fait sur place au fil des ans. Mais le temps passe et Mario commence à s'ennuyer. Quand il remonte à pied jusqu'au chalet en début d'après-midi, il remarque que le chalet est toujours aussi silencieux, que la voiture de Xavier n'est toujours pas là et que sa mère n'est pas de retour. Elle, qui se fait habituellement une joie de l'accueillir et qui guette son arrivée à chaque fois. Mario le sait, sa mère est une véritable maman poule, très protectrice. Et ce n'est pas du tout son genre de le laisser dehors à l'attendre durant des heures, sans se manifester ou lui donner de nouvelles. Le soir venu, l'adolescent est toujours là, à arpenter les abords du chalet, plongé dans un silence inexpliqué. La panique commence cette fois-ci à l'assaillir pour de bon. Ils ont dû avoir un accident de la route ou quelque chose. À la nuit tombée, les températures extérieures rechutant, il n'a d'autre choix que d'aller se réfugier chez des amis de sa mère, qui sont aussi paniqués que lui. Le lendemain matin, à la première heure, Mario, accompagné de ces derniers, retourne au chalet. Il en fait le tour, mais ne constate rien de particulier, à part le calme inhabituel de cette maison plongée dans le silence complet et qui, d'habitude, grouille de vie, de cris d'enfants, de bruits de télévision et de la forte voix de Xavier. Mais il y a pourtant une chose qui pique sa curiosité. Depuis les grandes portes-fenêtres aux rideaux dégagés, Mario remarque que la maison est impeccablement rangée et reluisante de propreté, alors qu'habituellement, ce n'est jamais le cas avec trois jeunes enfants chahuteurs qui mettent la pagaille partout. Sa mère, très prise par son travail, n'est pas non plus une fée du logis ni une fan du ménage et laisse ses enfants âgés de 9, 11 et 12 ans jeter leurs affaires partout et comme bon leur semble. À son retour, elle range au feeling, aidée parfois par Xavier, parfois non. Plus d'une fois, il est arrivé que la vaisselle reste dans le lave-vaisselle pendant 2 jours de suite, sans que personne pense à la sortir. Cet aspect nickel de carrelage briqué et brillant, de chaises impeccablement poussées sous la table, de la nappe blanche bien repassée, chaque objet rangé à sa place, surprend beaucoup Mario. Maman a donc décidé de se mettre au grand ménage du printemps ? Mais il pense cela pour se tranquilliser. En réalité, il a peur en ce moment, et même beaucoup. Et toujours avec les amis de la famille, il reste là, dehors, à patienter toute l'après-midi devant le chalet, tentant d'appeler le fixe dont la sonnerie ne retentit pas, de joindre les portables qui basculent à chaque fois sur la boîte vocale. Le soir venu, toujours aucun signe de Graziella, de Xavier, ni des enfants. Mario décide alors de téléphoner à sa grand-mère maternelle, qui alerte à son tour la gendarmerie. L'absence du véhicule de Xavier Flactif fait tout de suite penser à un accident routier. En effet, ce dernier a l'habitude de rouler très vite, même trop vite, sur ses routes de montagne. Il a dû déraper à un moment et tomber dans un ravin. Voilà la première hypothèse que font les gendarmes et la famille Ortolano. Les gendarmes connaissent toutes les routes escarpées et dangereuses de la vallée, alors les recherches s'orientent d'abord dans ce sens. Tout le périmètre entre le Grand Bornand et Grenoble est vérifié. Un hélicoptère de la gendarmerie survole aussi toute la région à la recherche du véhicule de Flactif. Sans résultat. Entre-temps, Mario continue de téléphoner désespérément à sa mère, lui laissant des SMS qui restent sans réponse et tombant toujours sur son répondeur. Le téléphone fixe n'est pas décroché une seule fois. Les gendarmes, de leur côté, sont face au néant. Ils n'ont absolument aucun élément sur lequel se baser. Avant de poursuivre notre affaire, faisons d'abord connaissance avec la famille des disparus. Graziella Ortolano et Xavier Flactif sont tous les deux natifs du Pas-de-Calais. Elle, âgée de 37 ans, est d'origine italienne, brune, pétillante, toujours souriante et avenante. Lui est un métis afro-guadeloupéen de 41 ans, un grand gaillard musclé, imposant et massif. Les Flactifs sont parents de 3 enfants, Sarah, Laetitia et Grégory. Mario a tout de suite été adopté par son beau-père, puis par sa nouvelle fratrie qui l'adore. Ce grand frère qui débarque, lorsque les vacances arrivent, les impressionne et force leur admiration. Le chalet est sa seconde maison et il s'y sent à son aise. Durant l'hiver, la famille fait du ski, de longues balades en forêt et des baignades en été. Graziella est une figure emblématique de son village. Les dimanches, quand elle n'a rien de prévu, elle donne des cours de catéchisme aux enfants et participe avec eux au club de dessin. Depuis son arrivée ici, elle a tout fait pour s'adapter à ce nouvel environnement et nouer des liens avec les villageois. Au bout de seulement quelques mois, elle préfère déjà largement sa vie de montagne à celle de son Pas-de-Calais natal, où sont restés tous les autres membres de sa famille. Son mari, Xavier, est ce qu'on appelle en anglais un « self-made man ». Il a commencé de zéro et a travaillé dur toute sa vie pour réussir à avoir l'aisance matérielle dont il jouit à présent. Promoteur immobilier hors pair, businessman redoutable en affaires, il possède à son actif 13 chalets, 24 appartements, sans compter d'autres biens. En l'espace de 3 ans, il a réussi à bâtir un empire immobilier colossal et générer 4 fois plus de bénéfices que ses concurrents, issus de la vallée, en ont péniblement réalisé durant toute leur carrière. Xavier, homme parti de rien et arrivé au sommet, tire un grand orgueil de sa réussite financière. Suivant le modèle américain, il n'a pas honte de l'afficher, alors qu'en France, la fortune reste un sujet encore tabou qu'on ose peu ou jamais montrer aux autres. Or, cette attitude ne tarde pas à attiser la jalousie dans la commune du Grand Bornand, et bientôt, aussi, de la haine et du mépris. Dès le début de l'enquête, quand les gendarmes viennent recueillir l'avis des habitants sur Xavier Flactif, il se retrouve face à un mur de silence. Et puis, alors qu'il ne s'y attendait pas du tout, les langues des habitants du village de Prat-sur-Arly commencent doucement à se délier. « Oh, vous savez, personne ne l'aime vraiment par ici. Il prenait des grands airs, c'est un malpropre, un vulgaire parvenu. Il n'est pas net, mais elle non plus. Tout le fric qu'ils ont, c'est pas permis dans ce bas monde. » Bon, d'accord. Il ne se passe pas beaucoup de temps pour que les gendarmes se fassent leur petite idée sur l'opinion générale envers les Flactifs, et plus particulièrement sur la personne de Xavier. Et puis, il y a un facteur qui ne leur échappe pas, son aspect physique, témoin de ses origines non-européennes. Grand, massif, brun de peau, très typé, il est surnommé péjorativement le Black, le Noir, une sorte d'ovni dont on ne connaît pas la provenance et qui a atterri un beau jour dans la région, pour s'approprier tout ce qu'il pouvait et laisser des miettes aux honnêtes gens natifs d'ici. Les médisances à son propos ne s'arrêtent pas là. Certains vont jusqu'à dire aux gendarmes que l'argent de ses opérations immobilières est de l'argent sale, acquis malhonnêtement et réinvesti de la même manière. Flactif paradait dans sa Toyota 4x4 comme un prince. Il prenait la place du village pour son rallye privé. Il aimait qu'on le remarque, comme tous les parvenus sans éducation, ajoute une habitante. En somme, il exagérait. Il en faisait trop, il étalait trop son argent, sans scrupule, sans penser aux petites gens dont les revenus sont plus modestes que les siens. Il ne se souciait pas du « qu'en dira-t-on ? » Voilà la conclusion avec laquelle repartent les gendarmes en quittant les lieux. Le 14 avril 2003, durant le JT de 13h sur TF1, la nouvelle de la disparition de la famille Flactif est à la une. C'est là qu'entre en scène pour la première fois un personnage encore non interrogé par les gendarmes, à qui les caméras de TF1 sur place donnent volontiers la parole. Son nom est David Otia. David Otia est un mécanicien de 31 ans. Il loue un des appartements que le couple Flactif possède. Sa compagne, Alexandra Lefebvre, femme au foyer, faisait occasionnellement le ménage chez eux pour arrondir les fins de mois difficiles. Dès l'éclatement de l'affaire, David et Alexandra se montrent extrêmement loquaces devant les journalistes, critiquant sans gêne la famille portée disparue. Sans se faire prier, David, souriant, décrit le mobilier du chalet des Flactifs et s'attarde sur des détails qui n'ont strictement rien à voir avec l'affaire. Gazinière grandeur nature, cuisine américaine, une table pour 20 personnes, un salon en cuir qui coûte je ne sais plus combien, télé grand écran, etc. Sa femme ajoute sur le même ton goguenard Ils sont bordéliques. Leur chalet est toujours sale et en désordre. Leurs enfants pourris, gâtés et mal polis. Le Black et la Rital qui aiment étaler fièrement leurs possessions devant les autres. Une fois, je passais la serpillière pour la énième fois parce que leur gamin avait foutu la pagaille partout et puis monsieur est arrivé. Les chaussures toutes crottées et il a sali exprès le parquet pour que je nettoie encore. Des pourritures, je vous dis. Le portrait que font les Yota de la famille Flactif rejoint celui des autres familles implantées depuis longtemps dans la région. Le gros Black est une persona non grata. Quelqu'un qu'on évite, qu'on n'invite jamais chez soi. Il n'a pas de manière, il est désagréable. Quelques jours après le passage des caméras de TF1 au Grand Bornand, les auditions de la famille de Graziella ont lieu, à savoir son fils Mario, sa mère et deux de ses sœurs, par les gendarmes. La famille Ortolano, très inquiète, déclare n'avoir jamais eu de problème avec Xavier depuis qu'il a épousé leur fille. Bien au contraire, il était en excellent terme avec la mère et les sœurs de son épouse. La colère est donc plutôt accumulée au niveau du village. Au fil de leurs interrogatoires, les gendarmes apprennent ainsi que beaucoup d'artisans et d'ouvriers ayant travaillé pour le compte des Flactifs évoquent des retards d'échéance de paiement, voire des absences de paiement tout court. D'autres propriétaires de terrain dénoncent le fait que, plus d'une fois, Xavier a élevé ses chalets et ses appartements sur leurs terres, sans permis de construire et sans leur autorisation. De l'avis général, le promoteur immobilier, acculé par les dettes et poursuivi par le fisc, a fini par prendre la fuite avec femme et enfant. Un habitant dont le terrain a été volé par Flactif déclare même face aux caméras « Une ordure, je vous dis. Dommage qu'il n'ait pas été descendu. » De plus en plus intrigués par les dires des uns et des autres, les gendarmes sondent un peu plus l'intimité de cette famille qui, apparemment, n'a causé que du tort depuis son arrivée. On dit que Xavier est un mauvais payeur, un escroc qui a déjà été interdit de gérance à cause de ses aléas par le passé. Que c'est d'ailleurs son épouse qui est gérante de leur propriété à sa place. Que c'est son nom qui figure dans les carnets de chèques, les entêtes, les bons de commande et toute la paperasse administrative. Un patrimoine immobilier s'élevant à près de 6 millions d'euros. Et pourtant, Xavier est endetté jusqu'au cou. Comment expliquer une telle chose? Pour en avoir le cœur net, les services de l'urbanisme font une enquête sur l'un de ses projets en cours, un complexe hôtelier dans la commune voisine du col de la Croix-Fraille, et dont le chantier semble très mal parti. D'après les éléments recueillis jusqu'ici par les gendarmes, les Flactifs, très endettés, ont tout simplement pris la fuite pour se cacher quelque part, voire à l'étranger. La thèse de cette fuite est consolidée par ce que le véhicule de Xavier est finalement retrouvé, dans le parking de l'aéroport international de Genève-Cointrin, GVA. Alors, la famille Flactif a bel et bien disparu pour fuir ses responsabilités financières. Et on dit au village que, s'il se cache, c'est tant mieux pour tout le monde, bon débarras. Mais la mère et les sœurs de Graziella ne veulent pas croire à cette thèse. Pour elle, jamais elle ne serait partie en laissant son fils Mario derrière elle, sans l'avertir et sans répondre à ses appels. D'ailleurs, pourquoi lui aurait-elle payé le billet de taxi pour venir la rejoindre au chalet si elle n'y était pas? Si elle avait l'intention de fuir avec mari et enfant, elle ne l'aurait jamais fait venir. Mais ce qui blesse et choque davantage les Ortolano, c'est l'attitude vindicative et haineuse des habitants du Grand Bornand, qui ne cachent pas leur joie de savoir qu'il est peut-être arrivé malheur à Graziella et sa famille. Sans parler de tous les ragots et médisances qui ont été racontés sur le sujet devant les caméras, et ceux qui ne se sont pas gênés pour souhaiter leur mort et leur perte. Une haine et un ressentiment aussi tenaces couvaient-ils à ce point envers les Flactifs? Malgré le témoignage des habitants, l'hypothèse de la fuite ne convainc pas les enquêteurs. Alors, ils décident de pénétrer à l'intérieur du chalet et de le passer au peigne fin. Pour cela, ils font appel à leurs collègues de l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Le 18 avril 2003, le chalet, qui a été auparavant placé sous scellé, est investi par la brigade de l'IRCGN. Ce jour-là, un des gendarmes qui était présent lors de la première perquisition remarque que certains objets ont disparu. Parmi eux figurent des ordinateurs, des téléphones portables, des DVD et une chaîne Hi-Fi. Cette découverte marque un revirement dans l'enquête et c'est là qu'entre pour la première fois en ligne la piste criminelle, jusqu'ici tenue éloignée. Les membres de l'IRCGN passent des jours entiers enfermés dans le chalet, effectuant des prélèvements. La maison tout entière est passée au peigne fin et la brigade va jusqu'à inspecter les rayures du parquet pour récupérer des traces d'ADN. Ils ont recours au Blue Star, qui révèle plusieurs traces de sang effacées au préalable, probablement avec de la javel et du détergent, ce qui amène les gendarmes sur le caractère criminel de la situation. Des taches de sang appartenant à chaque membre de la famille sont répertoriées un peu partout, mais également des éclaboussures de sang sur des meubles, preuve que ce ne sont pas des traces d'un petit incident domestique, comme une coupure ou une petite blessure, mais bien des quantités importantes de sang. Pour les gendarmes et les collègues de l'IRCGN, il n'y a plus de doute sur le sujet. Les factifs sont morts. La découverte du sang par les experts scientifiques marque un tournant irréversible dans l'enquête. Grâce au Blue Star, ils sont dorénavant sûrs et certains que la famille n'a pas disparu volontairement comme on se l'imaginait. Les enquêteurs se penchent désormais sur la piste criminelle et espèrent trouver des indices qui vont les mener à ou aux assassins. Au laboratoire de l'IRCGN, les prélèvements ADN prouvent qu'ils appartiennent bien aux trois enfants et leurs parents. Mais il y a aussi la présence d'un ADN numéro 3, extérieur à la famille, et prélevé pourtant à 22 reprises. Il s'agit certainement de celui du meurtrier. Mais pour le moment, on ignore toujours le mobile des meurtres et l'emplacement des corps, qui demeurent introuvables. En revanche, du côté des suspects, il y en a énormément, et même beaucoup trop. Alors, les enquêteurs font une très grande pression sur les habitants du Grand Bornand, et surtout, ceux qui travaillaient auparavant pour le compte de Xavier Flactif, et se plaignaient publiquement de lui. Au village, règne désormais une ambiance de plomb très tendue. On spécule sur qui aurait pu commettre un quintuple meurtre. On se jauge entre voisins, on s'observe. On se méfie même des très proches. Du côté des experts scientifiques, c'est une autre paire de manches. À présent qu'ils sont en possession d'une trace d'ADN étrangère à celle des Flactifs, il va falloir la comparer à d'autres échantillons. Il s'agit d'un ADN masculin. Tous les témoins hommes qui ont témoigné dans le dossier font ainsi l'objet de nouveaux prélèvements. Pas moins de 150 échantillons de sang et de salive sont alors prélevés. Entre juin et fin septembre 2003, tous les habitants du village et des hameaux environnants subissent des prélèvements d'ADN sur ordre de la gendarmerie. Tous se rendent sans réticence à la convocation. Mais il y a pire. Certains ennemis de Xavier Flactif viennent spontanément au poste de gendarmerie pour avouer des faits commis contre lui dans le passé. L'un d'eux avoue même qu'un jour, il a arrosé d'essence le véhicule du promoteur immobilier pour l'incendier. Un autre confie qu'il a volé du matériel de construction pour le revendre, puis un autre qu'il a scié volontairement une partie de la balustrade du chalet pour qu'à la moindre pression, il s'écroule. Les gendarmes en restent bouche bée, car cela est très rare que des gens viennent se dénoncer de cette manière. Mais la pression est tellement forte dans le village que beaucoup n'ont trouvé que ce seul moyen pour se dédouaner du crime collectif. Début octobre 2003, les experts arrivent finalement à une conclusion. L'ADN numéro 3 appartient à l'un des voisins proches des Flactifs. Il s'agit de David Otia, le même qui s'est montré très loquace et volontiers goguenard devant les caméras de télévision quelques mois plus tôt. Originaire du nord de la France, Otia est né le 23 octobre 1972 à Arras, dans un milieu ouvrier. Il effectue son service militaire en tant que casque bleu en ex-Yougoslavie avant de rentrer en France. Avant de venir s'installer en Haute-Savoie, il effectue plusieurs petits boulots pour survivre. Oui, car la survie a toujours été la vie de David, qui rêve de richesse, de grosses bagnoles, de signes extérieurs de richesse. Passionné de voitures, il passe un CAP en mécanique et en fait son gagne-pain. Le jeune mécanicien de 31 ans vit avec sa compagne, Alexandra Lefebvre, et ils ont ensemble deux jeunes enfants. Sa façon de raisonner fait qu'il pense qu'il a aussi le droit à sa part du gâteau sur ce que possèdent les autres, peu importe le moyen pour l'obtenir, et sans fournir d'efforts. Seule l'apparence et le fait d'impressionner comptent. Harassé par sa vie misérable dans le Nord, il voit la Haute-Savoie comme une porte de sortie, une région économiquement plus florissante, avec des opportunités professionnelles plus importantes. Sauf que les rêves démesurés de David Otia sont réduits en poussière une fois installé avec femme et enfant dans le Grand Bornand en 1999. Il comprend vite que son salaire de mécanicien ne peut pas lui permettre de s'offrir un chalet de deux étages avec une piscine chauffée et une vue sur la montagne. Mais maintenant qu'ils sont là, ils ne peuvent pas rebrousser chemin et rentrer à Arras sans un sou. David et Alexandra entrent alors en contact avec un couple de promoteurs immobiliers à la grande renommée, Xavier et Graziella Flactif, pour louer un de leurs appartements. Xavier accepte, à une seule condition, que le couple Otia libère leur logement pendant les vacances scolaires, autrement dit durant la haute saison où les appartements sont loués plus cher. Ils nous ballottaient de droite à gauche. On a fait une dizaine de chalets durant les vacances pour libérer l'appartement, comme l'exigeait à chaque fois Xavier, raconte David au journaliste. Le mécanicien prend cela comme une offense personnelle, une véritable humiliation, son ego bafoué, presque traîné dans la boue. Le coup de grâce arrive lorsque, la veille de Noël, il voit débarquer chez eux Xavier Flactif en pleine nuit, qui leur ordonne manu militari de quitter les lieux sur le champ. Le rêve de réussite fantasmé en Haute-Savoie de David Otia s'évanouit tout à fait ce soir-là. À partir de ce moment, autant lui que sa compagne mettent toutes les causes de leurs échecs professionnels, familiaux, financiers sur le dos de Xavier Flactif et commencent à le haïr profondément. Mais pas seulement lui, toute sa famille avec. Pour qui se prennent-ils ? Alexandra, qui a travaillé pendant un moment en tant que femme de ménage chez les Flactif, ne reste pas longtemps à son poste. Moi, j'ai travaillé pour eux, j'y suis resté une semaine. Il y avait toujours des problèmes. Lui, c'est un tyran, il est autoritaire, mégalomane, malhonnête. Il mettait de la crotte partout avec ses grosses chaussures, un vrai goujat, confie-t-elle sèchement devant les caméras de TF1. Les jours d'après, la confrontation entre les deux familles, aux univers opposés, reste sourde, mais sans venime. La réussite professionnelle des Flactif, leur train de vie qu'ils jugent outrancier, leur richesse matérielle, le bonheur qu'elles procurent, rend les Otia malades de jalousie. Et dans leur raisonnement commun, ils se disent « Pourquoi eux et pas nous ? Pourquoi ils ont un salon en cuir, un grand téléviseur, des ordinateurs, du mobilier luxueux, un compte en banque bien garni ? Ils peuvent aller en vacances, et pas nous ? Pourquoi ?» Mais est-ce suffisant pour les faire passer à l'acte ? Les gendarmes ont donc un suspect et un mobile. Malgré cela, ils n'arrêtent pas encore David Otia, car selon eux, il n'aurait pas pu abattre et faire disparaître 5 corps tout seul. La nature du crime est d'une extrême violence et nécessite plusieurs individus pour pouvoir l'exécuter. Ils sont persuadés qu'il y a au moins un ou plusieurs complices. Alors, pour tenter d'en savoir un peu plus sur le sujet, ils placent Otia sur écoute téléphonique. Les gendarmes veulent savoir qui il est vraiment, jusqu'où il serait capable d'aller pour se venger, ses intentions secrètes, mais aussi ses fréquentations, ses amis, etc. À travers les écoutes téléphoniques, les forces de l'ordre découvrent que David a un ami d'enfance, un certain Stéphane Aremza. Comme lui, il exerce le métier de mécanicien, et comme lui, il est originaire d'Arras. Lui aussi est marié et père de 2 enfants. Otia et Aremza ont beaucoup d'affinités en commun, ils s'intéressent beaucoup aux belles voitures de luxe. De fil en aiguille, les femmes aussi font connaissance à travers leurs compagnons respectifs. Et c'est ainsi qu'Alexandra Lefebvre devient à son tour l'amie intime d'Isabelle, l'épouse d'Aremza. Quand ils vivaient encore dans le Pas-de-Calais, ils s'invitaient souvent les uns chez les autres pour partager des beuveries et des repas en commun. Et puis, quand David et Alexandra déménagent en Haute-Savoie, ils persuadent leur couple d'amis de suivre leur exemple, ce qu'ils font. La vie qu'ils menaient dans le Nord se poursuit, et il faut dire que les Otia ont beaucoup d'ascendants sur leurs amis, qui sont réellement sous leur coupe. Alexandra Lefebvre, qui porte d'ailleurs la culotte dans son couple, et a un sale caractère, devient un peu le cerveau de ce quatuor d'un genre particulier. Elle les domine tous, son compagnon en premier. Quand il ne travaille pas au garage, David entraîne son ami Stéphane dans des petits actes de délinquance. Ils volent ainsi, et plusieurs fois, des radios de voitures, de l'essence, cambriolent des maisons. Donc, une potentielle participation des Aremza dans le meurtre peut-elle être possible ? Voici l'un des relevés des écoutes téléphoniques passées entre David et sa compagne. Alexandra.
Avec ce qui s'est passé au mois d'avril, vaudrait mieux se méfier, David. Parce que nous, notre vie, elle peut être foutue en l'air d'un seul coup.
Les disputes du couple deviennent de plus en plus fracassantes et fréquentes. Et bien sûr, c'est toujours elle qui a le dernier mot. Un jour, elle lâche cette phrase. Si ça continue comme ça, je dirai tout à propos de ce qui s'est passé la nuit du 11 avril. Durant le journal télévisé du 17 octobre 2003, la France entière apprend que la famille Flactif a bien été assassinée et que l'affaire est en passe d'être résolue. L'arrestation de David Othia et de Stéphane Aremza se déroule sur leur lieu de travail. Très vite, leurs femmes respectives sont également arrêtées et le quatuor est immédiatement placé en garde à vue. Moins d'une heure après son arrestation, David Othia passe aux aveux, sans aucune pression. Je me sens soulagé par cette arrestation. J'ai enfin la conscience tranquille après m'être libéré de ce lourd fardeau, déclare-t-il aux gendarmes, la tête penchée sur sa poitrine. Il raconte que 3 mois avant l'assassinat collectif de la famille Flactif, il a vu un reportage au sujet d'Alfredo Stranieri, surnommé le Coucou, ou le tueur aux petites annonces, celui qui volait les biens de ses victimes avant de les assassiner et d'usurper leurs identités. C'est en visionnant cette émission que l'idée de supprimer les Flactif a commencé à germer dans la tête de David Othia. Éliminer la famille pour s'approprier son chalet et ses voitures. Selon les éléments de l'enquête, le 11 avril 2003, Othia s'est introduit dans le chalet à l'heure où les enfants rentrent de l'école, soit vers 17h30. Il pousse la porte et pénètre dans le chalet. Les enfants le connaissent bien. Ils le saluent et téléphonent à leur mère Graziella, qui vient de les déposer avant d'aller faire les courses, pour lui dire que David est là. Cette dernière leur répond hâtivement
« Il n'a qu'à patienter dehors, je ne vais pas tarder à rentrer. »
Puis, les choses dégénèrent. Sans trop réfléchir, David Othia sort aussitôt son arme et abat un à un deux des 3 enfants attablés devant leur goûter dans la cuisine. Le troisième, probablement le petit dernier, Grégory, réussit à s'enfuir et monte se cacher à l'étage. David le poursuit, le trouve caché dans une chambre et lui fracasse le crâne avec une bûche de bois. Quand Graziella Ortolano rentre chez elle une demi-heure plus tard, elle pousse la porte et se retrouve nez à nez avec le bec du revolver du meurtrier, qui l'abat de 3 coups à bout portant à la tête. Elle s'écroule. Quand Xavier Flactif rentre à son tour 2 heures plus tard, il n'a aucune idée du drame qui vient de se dérouler chez lui. David, arme en main et dissimulé derrière le mur du salon, sent les pas lourds s'approcher. Il entend alors Xavier constater avec horreur ce qui vient de se passer. Xavier réussit à sortir l'assassin hors de sa cachette, et une lutte s'engage entre eux, au cours de laquelle David, physiquement moins fort que son adversaire, est projeté contre le bout de la table et se blesse, ce qui explique les éclaboussures de sang retrouvées plus tard par les gendarmes de l'IRCGN. Il n'oublie pas pour autant qu'il est armé, et il tire sur Xavier à plusieurs reprises. Quand le bruit des détonations cesse enfin, Stéphane Aremza débarque à son tour au chalet pour prêter main forte à son ami afin de dissimuler les corps qu'il charge dans de grands sacs poubelles. Puis, il les transporte dans le véhicule de Xavier Flactif et roule jusqu'à Thône, où il brûle les cadavres. Stéphane Aremza raconte à un autre gendarme, dans une salle mitoyenne, qu'il avait seulement l'intention de cambrioler le chalet de Xavier pour voler des objets de valeur. Cependant, leur plan a été compromis et craignant d'être identifiés et dénoncés, ils ont alors pris la décision tragique de tuer les membres de la famille, pour ne laisser aucun témoin. Outre les motivations financières et les conflits personnels, il est possible que des facteurs psychologiques aient également joué un rôle dans le passage à l'acte de David Othia. Les tensions accumulées, le sentiment d'injustice et la colère ont pu se combiner pour conduire à cet acte de violence extrême. Un dénouement tragique pour une histoire de jalousie maladive qui a conduit à l'irréparable et à l'assassinat d'enfants innocents. Sauf qu'au lendemain de ce massacre, David Othia, Alexandra Lefebvre, leurs enfants ainsi que le couple Aremza et les leurs viennent élire domicile dans le chalet des Flactif, comme si de rien n'était, suivant le modèle d'Alfredo Stranieri. Mais ils ne se contentent pas seulement d'occuper ce lieu tant rêvé. Ils volent tout, tout ce que leurs mains peuvent attraper, tout ce qui a de la valeur ou pas, allant de la grande télévision aux décodeurs, aux consoles du petit Grégory, aux DVD, aux ustensiles de cuisine, aux fours à micro-ondes, jusqu'au téléphone portable des Flactif qu'Alexandra Lefebvre utilisera plus tard, sans savoir qu'elle est écoutée à son insu. 2 jours plus tard, après avoir fait main basse sur les biens des Flactif, les deux couples, les Othia d'un côté et leurs complices de l'autre, se rendent à l'aéroport de Genève-Cointrin où ils garent le 4x4 Toyota de Xavier, dans le parking, pour faire croire à une fuite organisée des Flactif. Durant son interrogatoire, Aremza avoue même que David et lui ont volé du gasoil pour brûler les corps, le comble. Le lendemain, après les aveux des 4 inculpés, Les restes carbonisés de Xavier Flactif, de sa compagne et de leurs trois enfants sont découverts dans les sous-bois à 5 km de Thône, suivant les indications du meurtrier principal et de son complice. Le secteur est totalement bouclé et sur place, la police scientifique découvre pas moins d'une trentaine de fragments de dents et d'os. La brutalité de ces meurtres s'ébruite rapidement et choque profondément la région. Néanmoins, le plus dur reste à faire. Il faut annoncer la terrible nouvelle à la famille de Graziella. Pour Sandra Ortolano, la sœur de la victime, l'idée d'apprendre à sa mère comment sa fille, ses petits-enfants et son beau-fils ont été abattus et brûlés est une épreuve insurmontable. Mario, âgé seulement de 14 ans à cette époque, est en état de choc et plonge dans la dépression pendant 2 ans. Un assassinat, suivi d'un déplacement de corps, puis d'un démembrement et d'une crémation. C'en est trop. Un acte cruellement prémédité et exécuté avec un sang-froid redoutable par 2 couples, rongés par l'envie, le ressentiment et la jalousie, et qui ont planifié l'extermination de 2 adultes et 3 enfants, sans se soucier un seul moment des conséquences. Lors de sa première comparution devant les gendarmes, David Othia fait preuve de collaboration et avoue le quintuple meurtre, car selon lui, il était assailli par les remords. Mais quelques jours plus tard, il se rétracte, nie tout ce qu'il a fait et raconte une histoire tirée par les cheveux, où il s'agit d'un groupe d'individus masqués appartenant à la mafia serbe, qui aurait assassiné la famille devant lui alors qu'il se trouvait là pour discuter avec Xavier. Il va jusqu'à dire qu'il a été lui-même pris en otage par ce gang et que leur chef lui aurait ordonné de l'aider à abattre la famille Flactif. Cette version est évidemment contestée par les gendarmes, qui n'en croient pas un mot, d'autant plus que sa compagne elle-même et le couple Aremza ont donné la vraie version des faits, c'est-à-dire l'initiale, la véritable. Le procès de la tuerie du Grand Bornand, entre guillemets, s'ouvre aux assises de Sevrier le 12 juin 2006 et est très médiatisé. À l'issue du procès, qui se termine le 30 juin de la même année, David Othia est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Alexandra Lefebvre, quant à elle, est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Stéphane Aremza écope de 15 ans de prison et sa femme Isabelle de 7 ans. Les 4 comparses sont également jugés pour des actes survenus une année avant le quintuple meurtre, à savoir l'incendie d'un chalet appartenant au Flactif et d'autres vols et cambriolages dans la région du Grand Bornand. Ces condamnations ont marqué la fin d'un long processus judiciaire qui a permis de rendre justice aux victimes et à leurs proches. L'affaire Flactif a profondément marqué la société française. Elle a aussi mis en lumière les conséquences dévastatrices des conflits personnels qui peuvent conduire à des actes criminels d'une grande barbarie. Cette affaire demeure dans les mémoires comme un sombre rappel des limites de la condition humaine et de la nécessité d'une justice rigoureuse pour faire face à de tels actes. Alexandra Lefebvre a été libérée en 2013. Son avocat déclare qu'elle a retrouvé un travail et vit aujourd'hui avec ses enfants loin de la Haute-Savoie. Des rumeurs courent à propos d'une potentielle libération de David Othia en 2025. Selon son avocat, il avait déjà purgé 3 ans de prison avant son verdict, et au bout de 22 ans de réclusion criminelle, si le coupable est apte à être réinséré dans la société et ne présente pas de danger à autrui, il pourrait être libéré l'année prochaine. Mario Leblanc, le seul fils rescapé de Graziella Ortolano, a donné son propre témoignage poignant sur l'affaire qui a bouleversé sa vie lors de l'émission 7 à 8 du 7 avril 2024. Aujourd'hui âgé de 36 ans, il essaye de se reconstruire moralement et de garder la tête hors de l'eau. « Je témoigne pour qu'on ne les oublie pas, c'est une façon de les garder en mémoire », déclare-t-il. Les motivations de David Othia pour assassiner la famille Flactif étaient liées à des conflits personnels avec Xavier Flactif, à ses rêves de richesse inassouvis, à la frustration d'être incapable de les concrétiser et à la jalousie qui le rongeait de ne pas pouvoir vivre dans le luxe. Selon des psychiatres qui se sont penchés sur le sujet, son raisonnement est que la richesse matérielle est la clé du bonheur absolu et que si les autres y ont droit, il n'y a pas de raison pour que cela lui soit refusé. Ces facteurs combinés ont conduit à l'un des crimes les plus choquants de l'histoire criminelle française. Le film « Possession », entre guillemets, sorti en 2012, est librement inspiré de ce fait divers. « Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.